temps plein et à temps partiel, préposés pour la salle à manger les fins de semaine, préposés aux bénéficiaires de soirées de nuit, infirmiers, infirmières auxiliaires, 15 heures semaine. Faites parvenir votre CV pour l'offre d'emploi qui vous intéresse par courriel à dg@commercialresidencelndavoie.com ou en communiquant directement au 418-856-6668.
Et de votre chambre.
L'inimitable.
Au réseau Cogeco Média. Voici le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
Bienvenue à la troisième heure de l'émission. J'accueille avec plaisir les auditeurs et les auditrices de la région de l'Outaouais. Vous savez, il y a un moment avec Stéphanie Gramont, on parlait du télétravail puis les gens qui préfèrent demeurer à la maison là après la pandémie, qui n'ont pas le goût de retourner sur leur lieu de travail. Et là, ça lance un débat. Oui, mais les centres-villes, pendant ce temps-là, ils vont périquiter. Si les gens restent, par exemple, en banlieue, ne viennent pas travailler au centre-ville, est-ce qu'ils ont une responsabilité? Ça fait débat à l'heure actuelle. Et il y a quelqu'un qui m'écrit, je vais lire son commentaire, c'est Chantal, parce qu'on parlait également du travail d'équipe qui est favorisé par la présence en bureau. Et Chantal m'écrit, quel travail d'équipe? Moi, je suis à Longueuil, mon équipe est à Ottawa, Teams est efficace. Alors là, chez moi, avec les chambres de commerce, j'encourage le voisinage, pas l'étranger au kiosque près du bureau. Encourageons le commerce de proximité. Je trouve que c'est quand même un argument intéressant. Ben là-dessus, on s'en va aux nouvelles avec Thomas Mercier.
Les actualités Cogeco Nouvelles.
Bonjour Thomas.
Bonjour Philippe.
Alors les différents partis politiques commencent à réagir à la démission de Pierre Fitzgibbon.
Oui, disons que la démission du super-ministre de l'économie et de l'énergie là, a créé une onde de choc dans le milieu politique, c'est peu dire. Au caucus précessionnel du Parti libéral qui a lieu à Gatineau aujourd'hui, le chef intérimaire du parti, Marc Tanguay, et la députée Marois Risky ont qualifié cette démission de dur coup là, pour le gouvernement caquiste de François Legault. On les écoute.
François Legault avait tout misé en matière économique sur Pierre Fitzgibbon. Également en énergie, ça nous dit que ce sont deux importants dossiers, notamment, qui viennent de perdre le seul pilote dans l'avion que François Legault avait désigné.
C'est un homme vraiment d'une très grande qualité. Alors oui, c'est une perte pour le Québec, parce qu'on n'a pas énormément de gens d'affaires qui font le saut en politique.
Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui aussi a réagi, a tenu à saluer le parcours de Pierre Fitzgibbon, qui, selon lui, n'a pas sa langue dans sa poche. Il a aussi rajouté là, que M. Fitzgibbon quittait le navire qui est en pleine tempête présentement.
Et moi, je vous signale que dans quelques minutes, je vais recevoir Michel Leblanc, qui est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il réagira, bien sûr, à la démission de M. Fitzgibbon. Thomas, toujours pas d'entente entre Québec et les syndicats qui représentent 12 000 travailleuses dans les CPE syndiquées à la CSN.
Oui, ils affirment qu'ils sont à milieu de s'entendre avec Québec quant au renouvellement de leur convention collective. Les syndicats de la CSN n'en sont toutefois pas au même degré d'avancement que ceux de la CSQ, où les membres de CPE ont déjà approuvé à 85% un mandat de grève progressif là, exercé au moment opportun. La représentante du secteur du CPE de la CSN, Stéphanie Vachon, déplore le fait que la négociation stagne dans le secteur.
Nous, on appelle ça une pénurie de personnel. Eux sont plus dans la rareté de personnel. Mais on n'a vraiment pas les mêmes solutions pour régler la problématique. Puis nous, on voit plus une urgence à régler. Je sens pas qu'il y a la même urgence de régler du côté patronat.
Et Québec octroie un financement de 4 millions de dollars à l'Institut national de la recherche scientifique pour mieux se préparer aux futures pandémies.
Ben oui, les chercheurs auront donc accès à de nouvelles infrastructures pour étudier les virus qui sont transmis par les insectes. Avec les changements climatiques, les arbovirus sont de plus en plus présents sur la planète et représentent une menace croissante pour la santé publique. C'est ce qu'explique la spécialiste en virologie moléculaire Laurence Châtel-Bichet.
Alors, les gens pourraient se poser la question, mais pourquoi ils travaillent là-dessus? Quelle est la pertinence pour le Québec? Ben, la pertinence, c'est qu'avec les réchauffements climatiques, les populations, la démographie des moustiques change parce que les habitats changent. Ces moustiques-là colonisent des régions qui, classiquement, étaient plus tempérées.
Merci beaucoup, Thomas.
Avec plaisir.
Plus tard, et moi, je vous rappelle, je vous indique que Benjamin Netanyahou a condamné la suspension d'exportation de certaines armes du Royaume-Uni à Israël en la qualifiant de honteuse.
À Montréal.
District 5.
Parce que vous voulez tout savoir, on fait le point sur l'actualité. Jusqu'à 18h30, vous écoutez Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco Média. Voici Philippe Quentin.
Plusieurs de nos chroniqueurs sont autour de la table pour cette troisième heure de l'émission. Et parmi ces personnes, il y a Michel Boisvert. Bonjour Michel.
Bonjour Philippe Quentin.
Est-ce que tu as été étonné en apprenant la démission de Pierre Fitzgibbon aujourd'hui?
Complètement. Je savais que ça s'en venait, j'en avais parlé la semaine dernière, mais avant l'étude du projet de loi sur l'énergie, je suis aussi surprise que tout le monde qui en a parlé aujourd'hui. Non, et on va en reparler, évidemment.
Oui, bien sûr, ce sera le sujet de ta chronique. Salut, Maker Guerrier.
Salut, Philippe Quentin.
Alors, qu'est-ce que c'est aussi tu veux nous parler de Pierre Fitzgibbon?
Ouais, hein?
Le sport, c'est... société, les épaules larges aujourd'hui.
C'est un petit clin d'œil, en fait, parce qu'en général, on fait l'inverse. Lorsqu'on parle de sport, on essaie, ou plutôt qu'on parle de politique, on essaie de comparer les choses dans le sport, la même chose. Et là, je me suis dit, pourquoi pas allier les deux, expliquer aux fans de sport, ça ressemblerait à quoi si c'était du sport aujourd'hui dont on parlait, de voir quelqu'un d'aussi proéminent que Fitzgibbon démissionner. Est-ce que chez les athlètes ou les entraîneurs, c'est déjà arrivé une chicane comme ça en plein milieu de saison, juste avant le début de saison?
Tu penses qu'une chicane?
Je sais pas. Hein, quelqu'un qui démissionne à la dernière minute comme ça...
C'est... Michel semble dubitatif, mais c'est certainement une question qu'on peut se poser.
Ben, je t'en parlerai tantôt.
OK, excellent. Valérie Beaudoin, bonjour. Est-ce que tu es là, Valérie?
Oui, je suis là.
Oui, salut. Alors, salut. De quoi tu nous parles dans ta chronique américaine?
De plusieurs choses. Écoute, tu vas voir, c'est varié. Je vais te parler du syndicat, je vais te parler de George Clooney, puis je vais te parler du bon vieux McDo aussi.
Bon, excellent. Oui, le McDo qui fait un retour en force dans la campagne électorale américaine pour une raison, mais celle-là, je dois avouer, je ne l'ai pas vu venir, mais tu vas tout nous raconter ça.
Avec plaisir.
Tantôt. Catherine.
Ben moi, aujourd'hui, ça vient tout juste sortir du four, là, mais la bande-annonce du film Monsieur Aznavour, qui porte évidemment sur l'ascension du célèbre chanteur Charles Aznavour à partir des années 1950, qui était fils de réfugié, petit, pauvre. On disait qu'il n'avait rien pour lui, que jamais il serait capable de chanter. Eh bien, il est devenu un des plus grands chanteurs avec 1200 chansons interprétées partout à travers le monde. Voici un extrait de la bande-annonce.
Charles Aznavour!
Tu chantes et tu joues au théâtre.
Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent.
On va devoir partager le titre.
Oui, Jésus, on va devoir dormir par terre.
Qu'est-ce que tu veux chanter?
Des chansons d'amour.
Pour chanter l'amour, faut être beau.
À 18 ans, j'ai quitté ma province.
Alors, c'est tard, Raïm qui tient le rôle de Charles Aznavour. Et le film va prendre l'affiche ici au Québec le 29 novembre prochain. J'ai bien hâte de le voir, ce film.
Moi aussi. Michel, oui. Est-ce que c'est un documentaire ou c'est un film avec quelqu'un qui interprète Charles Aznavour?
C'est une fiction. Comme je les aime, moi, j'adore les biopics. Quand on raconte la vie de quelqu'un, même si c'est romancé, je m'en fous. J'adore ça. Je trouve que c'est tout le temps de bons moments au cinéma. Puis là, j'ai l'impression qu'on va en vivre.
Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Catherine. On se retrouve demain.
Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin.
Alors voilà la nouvelle de la démission de Pierre Fitzgibbon là, qui suscite beaucoup de commentaires aujourd'hui. Selon Sébastien Bovet de Radio-Canada, eh ben lui, il nous dit que le premier ministre François Legault s'impliquerait désormais plus directement dans le dossier d'Hydro-Québec. Il se nommerait peut-être même responsable du dossier d'Hydro-Québec. Tout cela en maintenant un ministre de l'Économie et de l'Énergie. Et ben les nouveaux ministres, aux nouvelles ministres, là, selon ce que décidera M. Legault, eh ben il serait à sermenté jeudi. Alors, comment réagit la communauté des affaires à la suite de l'annonce du départ de Pierre Fitzgibbon? Et pour en discuter, je reçois Michel Leblanc. Monsieur Leblanc est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Monsieur Leblanc, bonjour.
Bonjour, Monsieur Quentin.
Monsieur Leblanc, première réaction à cette nouvelle qui a quand même surpris à peu près tout le monde aujourd'hui.
Oui, en fait, comme disait tout à l'heure Michel Boisvert, que je salue, on est pas surpris qu'il quitte. On est un peu décontenancé que ça ait lieu à ce moment-ci. Le projet de loi concernant la stratégie électrique et Hydro-Québec est majeur. Il y a beaucoup, beaucoup de matière et le ministre avait consulté tout le monde. Le ministre était vraisemblablement, à mon avis, le très au fait de tous les enjeux. Alors, ça pose la question, comment ça va se dérouler à partir de maintenant, on verra. Il y a énormément d'attentes sur ce projet de loi-là, donc à suivre.
Bon, à suivre, bien sûr, puis on verra qui assumera les responsabilités. Mais avant tout, j'aimerais qu'on analyse ensemble le bilan de M. Fitzgibbon. Bien sûr, il s'est retrouvé dans l'actualité pour toutes sortes de raisons, des bonnes et des moins bonnes. Les moins bonnes, bien sûr, je fais allusion à tous ces problèmes avec la commissaire à l'éthique, là, où il a été blâmé. Il a même dû abandonner ses fonctions de ministre pendant un certain temps. Mais vous, quel bilan dressez-vous de son action?
Ben, pour moi, Pierre Fitzgibbon, là, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un des grands ministres du développement économique qu'on a eu. Et j'explique une particularité qu'il avait. On a des ministres qui ont été très, très, très bons stratèges économiques, qui ont émis des énoncés de politique de développement économique. Et le ministre Fitzgibbon le faisait aussi. Il a fait la réforme d'Investissement Québec, qui était majeure. Il a renforcé là, un des piliers de l'État maintenant. Mais il a aussi fait d'autres réformes et toute la filière batterie, effectivement. Là, on le voit. Mais le ministre Fitzgibbon, ce qu'il avait de particulier, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il s'assure que dans le concret, ça se matérialise. Il va faire des deals, il va faire des ententes. Je vais vous donner un exemple qui est dans un autre secteur. Le ministre François-Philippe Champagne avait gagné une décision de l'entreprise pharmaceutique Moderna de s'établir au Canada, alors que beaucoup de gens pensaient que ça irait aux États-Unis. Mais encore fallait-il que ça vienne au Québec. Et là, c'est le ministre Fitzgibbon qui est allé travailler pour que ça aille pas à Toronto, pour que ça vienne au Québec, puis ça atterrit dans la région de Montréal. Et ça, c'est un ministre qui est capable de faire arriver des ententes, des deals. Peut-être que ça l'a mis dans l'eau chaude, mais moi, je peux vous dire que d'un point de vue d'observateur, c'est très rassurant d'avoir un ministre qui fait arriver dans le concret des décisions de stratégie économique.
Bon, bien sûr, Moderna, c'est un succès. L'usine, je pense même qu'on l'a inaugurée là, au cours des derniers jours. J'ai vu des photos officielles passer. Mais je regarde le dossier de Nordvolt, M. Leblanc. Là, à l'époque, quand on nous a annoncé ça, c'était la plus belle invention depuis longtemps. C'était le Québec de demain qu'on était en train de façonner avec cette usine-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions là, qui restent en suspens. Par exemple, est-ce que ce projet-là verra véritablement le jour? Nordvolt est dans une réévaluation stratégique. M. Fitzgibbon disait dans un entretien avec la presse durant le week-end que le projet pourrait être remis de 12 à 18 mois. Mais avouez là, qu'on ne sait pas trop comment tout ça va atterrir. Est-ce que c'était pas trop risqué?
Bien, j'aime beaucoup votre dernier mot qui est risqué. La question, c'est est-ce qu'on est dans la cour des grands? Quand on parle de stratégie économique là, moderne, d'avant-garde. Le Québec a raté, il y a bien longtemps, des tournants, notamment dans le domaine de l'automobile. C'est tout allé en Ontario. Pour toutes sortes de raisons, je ne nous lance pas la pierre, mais je dis, Fitzgibbon, le ministre Fitzgibbon est arrivé en disant la voiture, elle va être électrique. La batterie va être essentielle à cette voiture. Et nous, au Québec, on peut en faire partie. Maintenant, après, est-ce que ça va être un long fleuve tranquille? Est-ce que ça va être linéaire? Est-ce que c'est sûr que tout va marcher comme on l'avait dit au premier jour? La réponse est évidemment non. Et là, ben, ça devient à ce moment-là un jugement qu'on porte sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de jouer dans ces grandes stratégies qui ne vont pas être nécessairement faciles à tous les jours, mais où si on réussit, ça va être extraordinaire pour notre économie. Et moi, c'est ce que j'aime de l'individu. C'est de l'ambition, c'est de l'audace, mais c'est aussi de se faire confiance qu'on va réussir.
Bon,
et,
alors...
et je terminerai, là, si vous me permettez, parce que l'autre chose que je lui remets, c'est que durant la pandémie, mes collègues du reste du Canada ont tenté de convaincre les gouvernements provinciaux de l'importance des centres-villes. Et moi, quand j'ai parlé au ministre Fitzgibbon en disant c'est dangereux, c'est délicat à Montréal, le centre-ville souffre, j'ai eu un ministre qui a débloqué des fonds. Et je vous le dis, dans le reste du Canada, on disait, mais comment ça se fait que nos ministres à nous ne comprennent pas l'enjeu des centres-villes? Pierre Fitzgibbon défend Montréal, défendait Montréal.
Bon, qui pour le remplacer maintenant, M. Leblanc? Là, vous tracez un portrait très élogieux du ministre Fitzgibbon. J'imagine que c'est une opinion qui est communément répandue dans le milieu des affaires à Montréal. Il y a certainement des arguments en faveur de cette thèse-là. Mais c'était un porteur de ballon très, très présent pour les dossiers. Pas peur de la controverse, développait des choses. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le gouvernement Legault qui a la stature pour assumer ses fonctions?
savez, il avait même dit lui-même, je pense qu'il était une bébite rare. C'est effectivement une bébite rare. Est-ce que le ministre Girard, qui est ministre des Finances durant l'automne, va être un peu moins sollicité? Là, s'il y a des cycles, là, des ministres des Finances peut prendre une partie du travail, possiblement. Il y a d'autres ministres qui ont de l'expertise en économique qui pourraient faire le travail. Puis peut-être François Legault, le premier ministre lui-même, qui a un passé en économique, peut en prendre. Mais éventuellement, là, puis il y a des analogies qui sont faites avec les équipes sportives. Quand tu perds un centre de premier niveau ou un ailier de premier niveau, ben tu vas essayer d'en repêcher un nouveau pour compléter ton équipe.
Ouais. Alors, mais parfois, ça prend du temps à développer ce joueur-là. Là. Il